La une ce midi, c'est la séance à l'Assemblée. Plusieurs questions orales, le détail dans ce journal. Ce lieu pas comme les autres qui va ouvrir à Papeete, le café Oa Oa. Et puis on terminera avec le Salon du Livre et ses histoires de cannibales. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Ce matin à l'Assemblée, on a parlé carottes, santé et décolonisation.
Oui, pendant la séance des questions orales, c'est d'abord la représentante Maïté Hawata Amin qui a mis en avant le cas d'un producteur de carottes à Toubouey. Quasiment l'intégralité de sa production a été rejetée du tri à cause d'imperfections. D'ailleurs, des images tournent depuis un moment sur les réseaux à propos de cette histoire. Elle demandait donc ce que le gouvernement prévoyait pour lutter contre ce gaspillage. C'est Warren Dexter qui lui a répondu, expliquant que 6 des 29 producteurs de carottes ont effectivement souffert des alternances de fortes pluies et de soleil et donc une partie de la production a dû être retirée du marché. Mais cette année, 16 des 48 tonnes écartées ont pu être découpées et conditionnées en sachets. Le pays espère faire mieux, mais le ministre annonce une loi du pays pour indemniser les agriculteurs. On l'écoute.
Un projet de loi du pays, porté cette année par l'Assemblée de la Polynésie française, vise à instaurer un dispositif d'indemnisation des dégâts causés aux outils, équipements de production agricole, culture et cheptel, d'aquaculture et de pelliculture en cas de catastrophe naturelle. Ce texte, déjà examiné en commission de l'agriculture et dont vous êtes membre, sera présenté prochainement en séance budgétaire.
Une nouvelle aide donc qui viendra en complément de presque 30 millions par an en aide directe et du financement par le pays des chambres froides, ateliers de transformation et matériel mis à disposition.
Et puis il a aussi été question des conséquences transgénérationnelles des essais nucléaires.
Inamoeura Morgan Cross voulait savoir si le pays allait s'engager à soutenir les travaux du docteur Kealu Fox, ce généticien hawaïen qui avait présenté un projet de recherche en avril dernier au CESEC. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a apporté des précisions. L'estimation du coût du projet est de 2 milliards de francs et la partie génétique n'est de toute façon pas prévue avant 2029 ou 2030. Le pays est en attente de précisions importantes avant de s'engager financièrement.
C'est un projet d'envergure, mais nous demeurons à ce jour en attente de compléments d'informations sur un plan scientifique, méthodologique et éthique. À ce jour, les modalités de financement et de sécurisation des données génétiques nécessitent encore des clarifications importantes avant d'engager notre pays. Ce projet reflète une volonté sincère que je salue et que je soutiens dans son intention, mais qui doit être approfondie et consolidée.
Et toujours au chapitre santé, Nicole Sanquer a demandé ce qu'il en était de la promesse du président du pays d'inclure l'endométriose dans la liste des maladies de longue durée. Cédric Mercadal a indiqué que les travaux de l'ARAS ont été achevés au début de ce mois et il est d'ailleurs sur le point de saisir le conseil d'administration de la CPS pour avoir son avis avant que le conseil des ministres prenne l'arrêté nécessaire.
Et enfin, le Tapura a interrogé le gouvernement sur le programme d'éducation politique du Tavini.
Tepua Rauri Teritei a questionné le ministre de l'Éducation Roni Teripaya sur ce programme d'éducation politique et citoyenne aux options de décolonisation. Un programme dont avait parlé le Tavini en conférence de presse avant son départ pour New York et dont la commission spéciale sur la décolonisation de l'Assemblée avait recommandé la mise en place. Un projet qui fait froid dans le dos du Tapura. Les autonomistes s'interrogent. S'agit-il d'enseigner ce programme aux écoliers, collégiens, lycéens au titre de l'instruction civique? Tepua Rauri Teritei a même fait un parallèle avec les régimes totalitaires qui ont utilisé l'école à des fins d'endoctrinement. Roni Teripaya lui a répliqué en l'accusant d'user d'une stratégie de dramatisation pour influencer l'opinion publique. Il rappelle que les programmes d'éducation civique sont adaptés périodiquement de manière concertée avec l'État au sein du Haut Conseil à l'éducation où siègent aussi des représentants de l'Assemblée. Et par ailleurs, les écoliers polynésiens sont sensibilisés dès le CE1 au contexte historique de la Polynésie française. On l'écoute.
Il ne faut pas confondre programme d'éducation au sens ministériel et programme d'éducation citoyenne sur les options de décolonisation à destination de la population. Pour enrichir vos acquis sur le sujet, je joins à la présente réponse un document intitulé « Colonisation, décolonisation dans les programmes adaptés d'histoire en vigueur en Polynésie française à la rentrée 2025-2026 ». Vous n'ignorez sans doute pas que cette adaptation a été faite en concertation avec le vice-recteur, donc l'État français.
La séance de l'Assemblée se poursuit avec notamment la proposition de loi du pays sur les comptables libéraux qui a reçu un avis favorable en commission.
Emploi maintenant, avec un indice toujours en hausse.
Tous les secteurs augmentent selon l'Institut de la Statistique. Industrie, construction, commerce, hôtellerie, restauration, services enregistrent de bons chiffres de l'emploi avec des augmentations entre le mois d'août 2024 et août 2025 allant de 2,8% à plus 5,5%. C'est dans la construction où l'augmentation est la plus importante et donc l'indice de l'emploi salarié augmente de 3,5% de manière globale entre août 2024 et août 2025, la plus forte variation annuelle depuis le Covid.
On parle aussi ce midi d'un lieu pas comme les autres, le café Oahua, qui s'inspire des cafés joyeux en France.
Oui, c'est Olivier Boll qui a repris leur concept. Ces restaurants ou cafés font travailler principalement des jeunes en situation de handicap. Fondés à Rennes en 2017, on les trouve depuis un peu partout en France et donc dès la semaine prochaine à Tahiti aussi. Olivier Boll va embaucher des jeunes en situation de handicap cognitif pour faire tourner le café Oahua. Lui-même est père d'un garçon en situation de handicap.
C'est un concept de restauration inclusive. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont dans le champ du handicap, qui ont eu l'occasion, lors de leur scolarité, en préparation en bac pro ou en CAP, de faire de la cuisine, de faire de la pâtisserie ou du service hôtelier. Et l'objet, c'était de se dire, on va créer une entité de restauration où vous allez être mis en avant, où vous allez pouvoir vous épanouir.
Le rythme de travail est aménagé pour éviter le stress et la surcharge. Le service s'articulera autour des petits déjeuners et déjeuners du lundi au vendredi. Et puis, le partage et l'échange font aussi partie intégrante du concept.
On a ouvert le restaurant et quand je dis ouvert, c'est que tout a été enlevé. Les parois, toutes les cloisons ont été enlevées de façon à ce qu'on soit dans l'échange. Je veux que ces jeunes-là puissent partager avec des clients qui s'inscriront dans la bienveillance, dans la compréhension. Je voudrais que les gens prennent un petit peu le temps de s'asseoir, d'avoir une expérience culinaire, mais surtout une expérience humaine et repartent de là joyeux, puisque c'est quand même l'objet du café, c'est le café Oahua.
La carte a été conçue avec des chefs de renom du lycée hôtelier. Ce sera simple, qualitatif et gourmand. Et puis ce café a aussi une dimension pédagogique. Des visites seront organisées pour que les jeunes rencontrent les producteurs et découvrent le cycle complet de fabrication des produits qu'ils utilisent. Et Olivier Boll espère même implanter tout ce concept dans les îles.
Imaginez effectivement d'autres projets, que ce soit ici, sur Tarabao, où il y a aussi un IME qui fait avec des jeunes handicapés qui font de la cuisine, que ce soit effectivement dans les îles, où j'ai déjà des sollicitations sur Moréa, sur Rayatea. On va y aller step by step. On va voir comment est apprécié ce concept, quelles sont les attentes de la clientèle. Et en fonction, effectivement, si ça marche, génial, on ouvrira d'autres points. Si ça met un peu plus de temps, ça mettra un peu plus de temps. Ce que je sais surtout, c'est que plus on aura de points, plus on aura possibilité de recruter des jeunes.
Voilà, le café Oahua, c'est donc en centre-ville de Papeete, passage Cardella, et ça ouvre la semaine prochaine.
Google est de retour en Polynésie pour actualiser son Street View.
Ces images qui offrent un service de navigation virtuel avec un panorama à 360 sur les lieux enregistrés sur Google Maps ou Google Earth. Les premières images de Polynésie avaient suscité un engouement mondial. Google a compté plus de 150 millions de vues. Une première cartographie qui date de 2019, il est donc temps de la mettre à jour. Et du 15 au 22 novembre, le consultant chez Google Maps, Christophe Courcault, déjà à l'origine du premier projet, mènera une nouvelle campagne de prise de vue, cette fois en ultra haute définition 11K à Tahiti, Moréa, Bora Bora et Raiatea. Et une autre campagne est envisagée en 2026 pour les îles de Huahine, Taha et Maupiti, ainsi que les archipels des Marquises et des Australes.
Et ça y est, la Tahiti Fashion Week est lancée.
Et l'événement a commencé hier soir avec une soirée film au cinéma Liberty et une première apparition des 12 candidates au concours de mannequinat. D'ailleurs, c'était une première d'aller dans une salle de cinéma. C'est bien le principe de la mode pour Alberto, le créateur de l'événement, être avant-gardiste.
Quand il y a eu le Covid, nous étions les premiers dans le monde. Après nous, c'était Armani qu'on a fait une Fashion Week digitale. Le mode, c'est aussi égal avant-garde. Donc voilà, cette année, on a fait le film. L'année prochaine, je ne peux pas te répondre maintenant, on verra. Peut-être on va faire dans un avion, peut-être on va faire sur un nuage, peut-être, voilà, on ne sait pas.
Et puis on va avoir le grand défilé prévu demain. Une quarantaine de créateurs vont présenter leurs plus belles productions et Alberto Vivian espère bien que le public soit scotché.
Les critères, c'est être créateur, faire des choses pas forcément vendables, un show pour que ça reste un show. Ce qui la fashion a, ça va être un show. Même si elle ne va pas vendre les robes, c'est pas grave. Mais tu vas dire waouh. Moi, un show, c'est réussi quand on dit c'est magnifique et Waouh.
Alberto parle bien sûr de Shonata Fayao, artiste et designer maori de renommée internationale, la première invitée de Nouvelle-Zélande de la Tahiti Fashion Week, dont vous pourrez voir les créations avec toutes celles des créateurs choisis pour cette édition lors du grand défilé, donc demain soir. C'est à partir de 19h au Royal Tahitien et puis il y aura l'After Walk au Rooftop samedi soir où tout le monde est invité à venir rencontrer les mannequins, les créateurs et toute l'équipe de la Tahiti Fashion Week.
Et ce nouveau livre pour terminer, après les graines, les fruits et les fleurs, Daniel Pardon s'intéresse aux cannibales.
Oui, changement d'ambiance pour cet auteur, ancien journaliste. Alors, il avait déjà parlé de ce sujet dans un précédent livre et il remet ça avec cette nouvelle publication. Mer du Sud, les derniers cannibales. Il reprend certains des récits déjà publiés il y a 10 ans. Des histoires qu'il avait trouvées en fouillant dans les bibliothèques de France, de Nouvelle-Zélande, de Hawaï ou de San Francisco. Les 40 récits sont tous précédés d'un avant-propos dans lequel parfois Daniel Pardon met en doute la véracité de ce qui a pu être raconté à l'époque. Et sur ces histoires, une se passe à Tahiti, une autre au Tuamotu et deux aux Marquises. Voilà, c'est édité chez Happy Edition et vous pouvez trouver cet ouvrage sur le Salon du Livre qui a commencé ce matin sur la plateforme basse de Toata. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les infos. Maintenant, c'est la météo sur